Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Sur le chemin de Saint-Jacques, l'auteur subit peu à peu une profonde mutation. Nous sommes dans le nord de l'Espagne, non loin de Bilbao. La fin de cette première période d'acclimatation correspond à peu près à mon arrivée au monastère de Zenarruza. On y parvient en suivant une ancienne voie pavée qui met tout à fait dans l'ambiance médiévale. Cette calzada, sous l'ombre des arbres, était encore toute boueuse des pluies de la veille quand je l'empruntais. Sitôt sorti du chemin creux, je fus accueilli par un grand soleil qui illuminait les halliers et faisait briller le vert tendre des prés sur les collines. Le monastère, situé en haut d'une côte, offrait une vue imprenable sur la campagne basque qui écrasait un ciel d'un bleu intense, ouaté de gros nuages blancs. Devant l'abbatiale, la dernière étape d'un chemin de croix était marquée par trois colonnes de granit. Un porche permettait d'accéder à une cour que bordait l'église à droite et à gauche les bâtiments conventuels. L'ensemble était désert. L'autre extrémité de la cour ouvrait sur un parc gazonné qui montait vers des bois. Une petite boutique vendait des objets fabriqués par les moines. Elle était fermée, mais un interphone invitait à appeler le frère responsable. Je sonnai. Une voix grésillante m'invita à faire le tour du bâtiment moderne et à attendre devant la cuisine. Je remarquai alors, en effet, que derrière l'église et face au panorama des collines, avait été construit un petit immeuble très récent, pourvu de baies vitrées et d'allures résidentielles. En tournant le coin, je débouchai sur la terrasse qui s'étendait au pied de cette nouvelle construction. J'attendis. Suivant l'instinct du pèlerin que j'étais devenu, je déposais mon sac à dos à terre, me massais les épaules et bientôt m'affalais sur le sol, la tête appuyée sur le mur du bâtiment, les joues tendues vers le soleil couchant. Le relâchement entraîne vite celui qui s'y livre jusqu'aux extrémités du négligé. Aussi, j'ôtais bientôt mes chaussures, mes chaussettes et me plongeais dans l'examen de mes orteils. À cet instant, parut devant moi un drôle de petit bonhomme en bleu de travail. Le crâne dégarni, l'œil vif, un sourire au coin des lèvres, le frère Grégorio me souhaita la bienvenue. Avec autorité, il me montra le dortoir des pèlerins où je le suivis pieds nus. C'était une pièce minuscule située sur le côté du bâtiment moderne. On y entrait par une porte dissimulée. Des lits métalliques superposés la meublaient, ainsi qu'une table en formica. L'ensemble pouvait loger 8 personnes. Le frère débitait son petit couplet pour pèlerin sans prêter attention à moi. Enfin, quand il eut terminé, je pus lui demander s'il me serait possible de planter plutôt ma tente dehors. Le petit jardinet où se dressaient les dernières croix du calvaire m'inspirait particulièrement. Protégé par un grand platane, ce triangle de verdure offrait un joli panorama sur les collines et un banc public y avait d'ailleurs été disposé. Grégorio me dit qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que je m'y installe. Au même instant apparut un groupe de 4 femmes qui finissaient de gravir la pente en soufflant. À leur vue, Grégorio s'illumina. Il avait été avec moi d'une politesse un peu mécanique. Avec les nouvelles venues, il montra un entrain bien plus grand. Apprenant qu'elles étaient australiennes, il se mit à baragouiner en anglais. Très émoustillé, il les saisit l'une après l'autre par le bras et les conduisit dans le dortoir. Je l'entendis exposer de nouveau son boniment, mais cette fois avec force gloussement. Les rires des femmes lui répondaient et il gloussait de plus belle. Quand il sortit, 3 Autrichiennes venaient d'arriver et l'excitation du moine décupla. Il parla allemand avec autant de fierté qu'il s'était essayé à l'anglais. Il attendit dehors avec moi pendant que les filles s'installaient. Elles revinrent toutes s'asseoir par terre comme je l'avais fait, mais Grégorio resta debout. Il nous raconta qu'il avait été moine, jadis, dans ce même monastère, puis qu'il avait quitté les ordres pendant 20 ans. Il avait sillonné le monde entier, s'adonnant à des activités qu'il ne nous précisa pas. En racontant cela, il pétrissait l'épaule d'une monumentale autrichienne. En arrivant, elle s'était délestée d'un énorme sac à dos qu'elle maniait aussi aisément que s'il se fût agi d'un petit coussin, et elle avait posé sur moi un regard dont la gourmandise me fit un peu peur. Cependant, le moine avait lâché l'autrichienne et massait maintenant le coude d'une australienne. Pâle et les lèvres pincées, elle avait l'air moins goulue que sa camarade teutonne. Mais Grigorio était si drôle, et après tout, c'était un moine, que la sévère pèlerine se laissait faire. Elle paraissait même y prendre du plaisir. Grigorio parla des bateaux sur lesquels il s'était embarqué pour traverser des mers lointaines. Il livra des anecdotes amusantes sur le Japon et les Japonaises, l'Argentine et les Argentines, l'Amérique et les Américaines. En évoquant chaque étape, il sortait fièrement des mots appris dans les langues les plus diverses, avec des éclats de rire. Enfin, il raconta que, au bout de 20 ans d'errance, il avait décidé de revenir à Zorza, dans son monastère. On l'y avait accueilli sans difficulté, d'autant que ses talents linguistiques le disposaient maintenant à tenir l'emploi d'hospitalier. Il nous donna rendez-vous pour les vêpres, si nous le voulions bien. Après quoi, il servirait notre dîner. Grigorio disparut, commença le balai des douches. J'y avais un certain avantage, puisque j'étais le seul homme et que les sanitaires étaient séparés en dames et messieurs. J'allais ensuite planter ma tente et préparer ma literie. Quand je revins, toutes les filles avaient disparu et j'en conclus qu'elles étaient parties entendre l'office. Une cloche aigrelette appelait à la célébration. Les vêpres à Zenaruza. Je fis le tour des bâtiments conventuels et entrai dans l'église. C'était un édifice roman, sombre et massif. L'autel était une construction en bois doré du XVIIIe siècle, ornée de sculptures et de colonnettes torses, qui montaient presque jusqu'à la voûte du chœur. On le distinguait à peine dans l'obscurité. Mais une main invisible actionna soudain un interrupteur et l'autel s'illumina. Les reflets d'or, la chair des statues, le bleu des tableaux qui parsemaient l'ouvrage éclataient sur le fond morne des pierres nues. Bientôt, les moines, couverts de leur scapulaire, entrèrent en file indienne et s'assirent en arc de cercle. Ils étaient 6, et parmi eux, Grigorio. Il était méconnaissable. Le petit farceur aigriard et malicieux avait fait place à un religieux grave, au visage pénétré, qui lançait au Christ crucifié des regards douloureux. Mes congénères, pèlerines autrichiennes et australiennes, étaient disséminées sur les bancs de bois de l'église. L'attitude de chacune permettait de former des hypothèses sur leur spiritualité. L'une gardait les yeux en l'air, fixés sur la voûte de pierre, et l'on sentait qu'elle ne cherchait dans le silence du lieu qu'un élan vers le grand tout. Une autre, agenouillée et perdue en signe de croix, montrait que c'était en Christ qu'elle croyait. Une troisième, sans doute luthérienne, fouillait dans le petit psautier qu'un moine avait distribué au début de l'office. Elle ne pouvait sans doute concevoir la prière sans l'appui d'un texte. Malheureusement, ils étaient en espagnol et à l'hermétisme des psaumes s'ajoutaient pour elle les opacités du castillan. Sur une travée proche de la mienne, je repérais la forte autrichienne qui répondit à mon regard par un sourire appuyé. Sans m'illusionner sur mon charme, j'avais bien senti que c'était le mal en moi qui faisait son effet. Celle-là ne semblait guère croire à la résurrection de la chair. Elle avait l'air bien décidée à en recevoir son comptant en ce bas monde. Les moines s'étaient mis à chanter. L'un d'eux jouait de l'harmonium. La mystique espagnole, puissante et grave, se lisait sur leurs visages burinés par les privations. Trois d'entre eux arboraient des barbes noires qui les faisaient ressembler à des personnages du Gréco. La magie entêtante de la prière nous avait tous saisis. C'est une des particularités du chemin que d'offrir aux pèlerins, quelles que soient ses motivations, des instants d'émotion religieuse inattendus. Plus la vie quotidienne du marcheur est prosaïque, occupée d'affaires d'ampoules douloureuses ou de sacs trop lourds, plus ces instants de spiritualité prennent de force. Le chemin est d'abord l'oubli de l'âme, la soumission au corps, à ses misères, à la satisfaction des mille besoins qui sont les siens. Et puis, rompant cette routine laborieuse qui nous a transformés en animal marchand, surviennent ces instants de pure extase, pendant lesquels l'espace d'un simple chant, d'une rencontre, d'une prière, le corps se fend, tombe en morceaux et libère une âme que l'on croyait avoir perdue.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.